liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue presse de l'April, semaine 25, année 2012, c'est la dernière de la saison. Salut Manu.
Salut Luc.
Petite revue de presse.
Hein, et oui.
Garde les traditions.
6 articles, ce qui est pas si mal parce que bon, il y a 2 semaines tranquilles. Donc on va parler d'éducation et d'informatique, les droits de l'homme, l'ACTA. Les logiciels libres et le milieu associatif. On va reparler un peu de l'April, justement, ce qui est pas mal du tout. On reparle de la formation, mais du point de vue de son évolution. Et pour finir, les biens communs, un super article qui parle de quelqu'un qui a gagné le prix Nobel. Cette fois-ci, c'est vrai.
Ça lui a pas réussi.
Ça lui a pas réussi parce que, justement, oui, elle est morte.
Alors, lemonde.fr, l'informatique est une science bien trop sérieuse pour être laissée aux informaticiens. Un article de Serge Habitboul. Alors, cet article qui fait des vagues sur Linux.fr, la remontée de cet article, mais tu dis, en fait, est intéressant parce que au niveau de l'éducation, et des gens qui réfléchissent au libre, à l'éducation, etc., il y a cette idée que l'informatique devrait être enseignée comme une discipline à part entière, et non pas comme une technique où on apprendrait, en gros, à utiliser les outils bureautiques dominants, à savoir aller sur Internet en mélangeant ses compétences avec des compétences sociales du type « je ne suis pas un vilain pirate », tout ça, et surtout ne pas avoir les billes pour pouvoir maîtriser l'informatique.
Oui, on est des utilisateurs sans avoir une réflexion loin de là. Mais justement, il y a le monde anglo-saxon qui remonte avec certaines idées là-dessus. Bon, la France, on n'est pas forcément en retard, mais il se trouve juste qu'il y a le Guardian et le New York Times qui font des articles sur ce sujet, qui publient les mérites de l'enseignement de l'informatique pour tous. Donc, c'est Royaume-Uni et États-Unis. Et voilà, ils disent, voilà, il faut pouvoir coder pour s'approprier les logiciels qu'on utilise.
Donc, ça va tout à fait dans le sens des idées qui sont défendues du côté de l'April au niveau de l'éducation. Mais c'est un sujet qui fait toujours beaucoup de débats. Cette idée, elle est quand même partagée par tout le monde, avec des nuances des fois. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que manifestement, il y a du mouvement de fond de ce côté-là, sachant que du côté de l'éducation nationale, bon, il est toujours un peu ambivalent, mais on a des trucs comme le B2I qui est vraiment dans l'idée de acquérons juste des compétences, ne maîtrisons pas les choses, etc. Donc voilà, cet article était intéressant à monter pour ça, même s'il ne parle pas de logiciel libre directement.
Oui, il faut rappeler que c'est un long combat, simplement parce qu'on n'est pas là juste pour utiliser et il faut en faire rendre conscience aux professeurs. Le logiciel libre, c'est bien pour ça, pour éduquer et pour prendre en charge les choses, pas juste utiliser un traitement de texte propriétaire à 2 balles. C'est important de s'approprier les choses.
Info DSI, logiciel libre et droits de l'homme, une conférence de Richard Stallman, le père du logiciel libre, un article de la rédaction.
Alors c'est un rapide article pour dire que le 21 juin, donc a priori vous allez écouter ce podcast ce jour-là, Richard Stallman intervient pour parler des droits de l'homme et du logiciel libre à la Fédération internationale des droits de l'homme.
Oui, le 28 juin, le 21 juin, c'est déjà passé.
Ah oui, oh là là, excusez-moi, c'est la date de l'article, oui effectivement, donc c'est le 28 juin, tout à fait. Donc il y a Reporters sans frontières, Telecomix, des petits gars, des petits hackers qui travaillent notamment...
Je sais que tu les aimes bien.
Ah, ils travaillent avec les résistants de la Syrie, donc des gens pas mal du tout, Silicon Maniacs et d'autres. Et donc il y a vraiment toute une discussion, n'hésitez pas à aller bouger, et puis peut-être à le réécouter sur internet si jamais c'est rediffusé, et je n'en doute pas.
PC Impact, le rejet d'ACTA en commission INTA, entre satisfaction et temporisation, un article de Xavier Berne.
Ça y est, l'ACTA c'est fini.
Alors pas tout à fait.
Eh mince.
Les commissions sont des commissions du Parlement européen qui sont en gros des groupes de travail, hein, donc c'est une petite partie des parlementaires. Alors évidemment, ça va orienter les autres parlementaires parce qu'il y a quand même des gens qui sont experts dans le sujet, des pairs qui disent, qui votent contre en disant tout ça c'est de la connerie. Donc on rappelle, on en a parlé la semaine dernière, INTA c'est quand même ceux qui s'occupent de commerce international, donc s'ils votent contre, à une courte majorité mais quand même, contre ACTA c'est quand même plutôt bon signe.
C'est très bon signe.
Voilà, on rappelle quand même que la Commission européenne, donc les représentants des gouvernements européens, bah, tout ce que le Parlement, toutes ces commissions ont voté, eux ça leur fait ni chaud ni froid, ils n'en ont rien à faire, ils continuent, ils sont pour ACTA, et que le lobbying pro-ACTA continue évidemment. Ça va se voter au Parlement, donc c'est ça qui décide au final. Hein.
Normalement le 4 juillet, en tout cas c'est ça qui est
voilà.
Attendu.
Donc d'ici là, vous pouvez aller sur le site de la Quadrature, le site de l'April, Quadrature du Net, pour aller harceler vos députés européens.
Oui, c'est important parce qu'en fait, ceux qui sont en face et qui soutiennent ACTA, hein, donc, notamment la Commission, eux, en fait, quand ils voient que ça va probablement se décider à un non, ils ont une autre solution, c'est de temporiser, attendre avant que la question soit posée officiellement au Parlement. Donc là, pour l'instant, c'est le 4 juillet. Mais eux, si ça pouvait être en décembre, je sais pas, un 24 décembre au soir, par exemple, ça devrait pouvoir les arranger. Donc ils vont essayer de repousser. Et là, il faut harceler les gars pour justement voter vraiment dans la séance prévue aujourd'hui. Et pour une fois pour toutes, mettre un clou dans le cercueil de cette saloperie. On peut espérer, mais ça peut arriver là, en juillet.
En tout cas, moi, j'ai bon espoir que ce soit rejeté. J'y crois, dur comme fer. Et c'est la preuve que tout le boulot de militantisme qu'on mène n'est pas complètement inutile.
Le Mag IT, l'April veut rapprocher le logiciel libre du milieu associatif. L'article de Cyril Chausson. Donc le milieu associatif, l'April, c'est déjà une association. Qu'est-ce qu'on fait ?
Cet article sort à l'occasion de la publication du guide libre association. Le guide de libre association, donc, c'est une adaptation du guide du logiciel libre, enfin du catalogue du logiciel libre qu'on avait déjà sorti avec une foule de logiciels libres adaptés au grand public. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit guide qui permet de découvrir tout ça, d'aller feuilleter et tout ça. Donc la libre association s'est tournée vers les associations, le monde associatif en général. Donc le projet a été mené avec la fondation du Crédit Coopératif, qui a financé l'opération et qui va également en acheter quelques milliers d'exemplaires pour les diffuser à tout son réseau. Et nous, de notre côté, on va distribuer ça à notre réseau également. Donc l'idée, c'est de montrer dans le monde associatif en général les proximités qu'il y a entre leurs problématiques. Par monde associatif, on parle de toutes les associations, mais notamment celles qui sont militantes, et donc entre leurs problématiques et le logiciel libre, et voir pour eux tout l'intérêt qu'ils ont à utiliser du logiciel libre, contribuer, etc., et donc à rentrer dans cette dynamique. Donc c'est un pas important, on a un groupe Libre Association qui existe depuis longtemps, et voilà, ça c'est un gros boulot qui a été mené par quelques membres de l'April, donc on est très content que ça sorte, et on est content évidemment qu'on en parle dans la presse. Le monde informatique, solution Linux 2012, la formation au logiciel libre doit évoluer. Un article de Véronique Arène, donc plus une interview.
Alors c'est une interview d'un PDG, ce ne sera pas la première fois qu'on a des articles de ce type-là.
Ancien PDG.
Ancien PGD ou co-président d'Alterway, donc une boîte, une SS2N il me semble, mais c'est une entreprise en tout cas qui fait du logiciel libre et beaucoup de logiciels libres, et qui là parle de la formation, mais au sens des entreprises, au sens de ce qu'on fournit aux utilisateurs professionnellement. Donc il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là, et là, justement, il parle de ces évolutions.
Donc c'est Philippe Montargès, qui est par ailleurs président du PLOS, donc le réseau des entreprises de logiciels libres en Île-de-France, et du CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre, qui est une organisation d'entreprises du logiciel libre, donc très orientée entreprise. Et c'est des choses qu'on a évoquées plusieurs fois dans la revue de presse, sur le fait qu'ils ont du mal à recruter. On avait évoqué notamment le fait qu'ils faisaient appel à l'alternance ou de la formation, etc., des méthodes de formation pour trouver du monde. Et voilà, il enfonce le clou en disant les formations initiales et continues sont insuffisantes. On a toutes les technos du libre ne sont pas représentées, ou il y a des gens qui n'ont pas un spectre suffisamment large au niveau des compétences et des technos, etc. Donc un témoignage de plus sur la nécessité de former les gens pour aller sur ce marché très dynamique.
Voilà, vieille discussion, il faut que dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, on représente plus et mieux le logiciel libre. Il n'y a rien de tel pour être efficace ensuite et pour l'utiliser. Je rappelle, contrairement à du logiciel propriétaire, quand on apprend du logiciel libre, on peut l'utiliser chez soi à volonté. Il n'y a pas de limitation et ça, c'est particulièrement avantageux. Alors le dernier article, peut-être un article un peu savant, un peu important, parce que là, on va parler d'économie. Donc c'est un article des blogs du Diplo. Alors vas-y, si tu peux donner le titre.
Elinor Ostrom ou la réinvention des biens communs, donc par Hervé Lecronier.
Et oui, et donc là, il parle d'Elmer Ostrom, qui est morte il y a peu et qui avait gagné un prix Nobel en parlant d'économie et surtout l'économie des communs.
Le presque prix Nobel d'économie.
Prix Nobel, oui, il y a un vieux troll, parce qu'effectivement, ce n'est pas vraiment un prix Nobel. Il se trouve juste que c'est donné dans les mêmes conditions que le prix Nobel.
Voilà.
Donc c'est souvent rattaché à cela, mais en fait, c'est un prix d'une banque dans les pays scandinaves.
Voilà, et qui a longtemps récompensé les économistes néoclassiques, pur jus, marché, etc. Donc je tiens quand même à le dire.
Oui, c'est un sujet qui t'importe.
Mais ils ont changé leur fusil d'épaule il y a quelques années, notamment avec cet économiste qui a travaillé avec son mari et sur l'idée des commons en anglais, des biens communs.
Donc ça veut dire que vous avez du bétail, il y a des champs qui appartiennent à personne et donc tout le monde les utilise. Et un des problèmes qui avait été remonté, il y avait un vieil article qui disait, voilà, c'est la tragédie des communs. Tout le monde va profiter des communs jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, ils ne savent plus à rien. C'est une tragédie et pour contrecarrer ça, il y a deux solutions. Soit on nationalise, soit on privatise. Mais en tout cas, on ne laisse pas les communs dans l'état où ils étaient.
le gros intérêt du travail de cet économiste, c'est d'être allé sur le terrain. Il faut savoir que dans le domaine de la prétendue science économique, on adore faire des super modèles mathématiques et partir de théories fumeuses comme l'homo economicus, l'idée que l'agent économique maximise son intérêt est totalement rationnel. Et c'est avec ce genre d'abstraction que l'article que tu cites est possible, où on dit, bah voilà, il va rationaliser son truc, et puis on fait un petit modèle mathématique et on montre que ça ne peut pas marcher. Or, en allant sur le terrain, c'est en faisant un travail d'anthropologue, elle a montré que non, en fait, en vrai, quand on va sur le terrain et qu'on bouge ses petites fesses en dehors de son bureau, on s'aperçoit qu'il y a des tas de communs qui sont gérés sur des générations par des gens qui ont trouvé des tas de solutions de gestion d'un patrimoine limité, collectif, dit-elle, avec beaucoup plus d'imagination que ce que les économistes et les banquiers savent faire.
Et ça, c'est un vrai renversement, parce que cet ancien article qui montrait la tragédie des communs a été utilisé comme une fondation pour beaucoup d'économistes et beaucoup de politiciens, donc quelque chose de vraiment majeur. Donc là, mettre de côté cette tragédie des communs et au contraire montrer que les communs c'est quelque chose de riche, quelque chose qui peut fonctionner, voire mieux, c'est quelque chose qui peut développer sa propre écologie. On peut vraiment avoir un écosystème qui se monte sur les communs à la manière des logiciels libres.
Voilà, et donc l'intérêt de l'article, c'est que dans sa dernière partie notamment, il parle des communs numériques, donc il arrive sur les sujets qui nous intéressent en tout particulier, parle du logiciel libre, et précise bien entendu que l'idée de mettre de la propriété intellectuelle partout, c'est rajouter ce qu'ils appellent les enclosures. Hein. L'article commence sur ce qui s'était fait en Angleterre au XVIIIe siècle, où on avait interdit par l'enclosure justement tous les usages notamment d'aller le droit de cueillette, etc., en jetant des tas de gens dans la misère, et qu'on était dans une dynamique assez proche où on met de la propriété intellectuelle sur des choses qui se reproduisent à l'infini sans perte de qualité pour un prix négligeable, et que du coup on était dans ce même genre de truc. On voit finalement que ces visions économiques fermées, etc., c'est surtout un fer de lance idéologique qui permet de s'approprier des choses qui ne l'étaient pas avant.
Oui, un vrai outil du malheur, parce que une fois qu'on renferme les choses, justement, on perd ce côté communal, cette utilisation et cette richesse. Donc là, justement, cet écosystème qu'on a développé dans le logiciel libre, il peut montrer que par cet économiste, on a une logique, on a un fonctionnement, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, et c'est le cas, et on le constate. Elle renverse la tendance, cette vieille idée donc, de tragédie des communs. Bravo à elle. Donc, allez lire l'article.
Il est un petit peu long, mais il est bien écrit, il est vraiment facile d'accès.
Il reprend tout le truc, toute l'idée, y compris l'histoire et les leçons de l'histoire. Donc
ça vaut la peine d'y passer un petit peu de temps.
Donc, et puis sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine.
Non.
Non, pas la semaine prochaine.
En septembre, puisque c'est la pause estivale de Divergence Numérique. Et donc nous-mêmes, nous n'allons pas continuer à faire la revue de presse juste pour notre plaisir.
Un peu de repos.
Voilà. Et on se retrouve en septembre si Divergence veut encore de nous.
Allez, bonne journée et salut Divergence.
Salut tout le monde. Bonnes vacances.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.